Bienvenue à tous dans l'émission C'est de la locale. Hello Simon, comment tu vas?
Ça va très bien et toi?
Bah cool, plutôt bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de 4 jours pour ceux qui auraient fait le pont vendredi. Toi Simon...
Moi j'ai fait le pont moi, c'est bon, mon micro est ouvert. Impeccable.
Bah en fait, j'avais mis le mauvais parce qu'à chaque fois, il me prend un micro.
Oui,
il
c'est
prend
vrai.
Il essaye tous les micros, Simon.
J'essaye tous les micros à chaque fois et je prends de court, Tatiana. Mais du coup, ça va très bien. J'espère que vous aussi, les auditeurs de Radio Pulse, vous allez très très bien.
Oui.
Le week-end de 4 jours a été ultra reposant. Donc là, on est ultra motivés.
Reposant
on
vous a... pour toi, je sais pas, d'après tes réseaux.
Ah oui.
tu t'es bien amusé.
Non, si, ça se repose. Je me repose la journée. Je me repose la journée, disons ça comme ça.
Et la nuit, il fait la fête.
Et
ça.
La nuit, on fait la
brinque. Bon, est-ce que tu peux nous dire le programme de l'émission de ce soir?
Oui, comme on est reposé, on vous a préparé une émission de dingue aujourd'hui.
Oui.
Avec en premier rendez-vous, pas le tête-à-tête du jour, non, mais deux
avant.
Invités. Avant le tête-à-tête du jour, on va avoir trois invités, trois membres du XAPA. Alors, les initiales du XAPA, c'est en fait Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Alors, elles sont venues répondre à nos questions sur Radio Pulse, autour de l'addiction forcément, mais aussi de la séance de ciné-débat qui a lieu demain à l'amphithéâtre de l'IFRE, avec deux séances à 14h30 et 18h30 pour ces deux séances... autour du film documentaire Addiction, une maladie chronique.
Oui, j'y suis passé.
Et ce film sera suivi d'un débat avec des addictologues et ils pourront répondre à des questions, etc. Et il y aura même certains patients qui parleront un peu de leur vécu. Mais
c'est cool.
Je laisse nos invités vous présenter cette séance de façon plus précise dans quelques secondes. Et après cet échange, vous retrouverez durant cette heure les deux présentations des deux nouveaux disques Ferrarock de la semaine, les masterclass, à savoir l'album Avec toi de Pierre Gisèle et enfin l'album La fête de la flemme.
Et oui, et ce soir, c'est un tête-à-tête un peu spécial. C'est un tête-à-tête un peu en mode mi-colloque, mi-coup de gueule. On va parler d'un sujet qui touche la radio, ou du moins plus généralement, le sujet des voix hertziennes. Puis en fin d'émission, comme toujours, c'est l'incollable local qui vous attendra. Bon, voilà quoi, votre émission C'est de la locale, ça commence maintenant, alors ne bougez pas. C'est maintenant sur Radio Pulse.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Hey, cet été, on met le cap sur Saint-Mont-des-Gastines en Mayenne. Pour le festival le plus engagé et le plus déjanté de l'Ouest, au foin de la... Les 4 et 5 juillet prochains, prépare-toi pour du Fat Boy Slim, Ben Mazué, Philippe Catherine, Hugo TSR, AD, Mézère, Les Ogres et la Rue Kétanou, Devodka et plein d'autres. Jour de live, de transpi, de son et de vibes, dans un festoche 100% éthique et solidaire. Réservez vos places dès maintenant sur aufondelarue.com et vivez l'expérience au fond de la rue.
Il y a quelques jours, Radio Pulse est allé au XAPA, à savoir le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie à Alençon. Alors pourquoi nous sommes allés là-bas? Pour parler addiction, mais aussi pour découvrir la séance de ciné-débat qui aura lieu demain dans l'amphithéâtre de l'IFRE à 14h30 et à 18h30, deux séances donc. Cette projection sera organisée autour du film documentaire Addiction, une maladie chronique. Alors merci à eux de nous avoir ouvert leurs portes et de nous avoir accueillis pour répondre à toutes nos questions. Et on va d'ailleurs commencer cette interview avec la première question. C'est quoi le XAPA?
Bonjour, alors donc effectivement vous êtes sur un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Donc il s'agit d'un dispositif national. Il existe des XAPA sur tous les départements et en fonction de la taille du département, parfois on a un ou plusieurs XAPA qui sont portés par des associations ou par un hôpital. Donc il s'agit de centres qui accueillent des personnes qui sont confrontées à des problématiques d'addiction, mais pas que. Ces centres ont aussi vocation à accueillir l'entourage des personnes qui sont en problématique addictive. Et donc, dans ces centres, on trouve des équipes dites pluridisciplinaires. Il y a toujours un triptyque qui est le médecin, psychologue, travailleurs sociaux. Donc en cela, on vient répondre à la définition de la santé telle qu'elle est promue par l'Organisation mondiale de la santé. C'est-à-dire que la santé, il y a une dimension médicale, psychologique, mais également sociale. Donc en plus des médecins, infirmières et travailleurs sociaux, psychologues, il y a aussi des spécificités qui sont portées par certains XAPA. Donc par exemple sur le XAPA d'Alençon, on a une sophrologue ici présente, Patricia, qui est à mes côtés, et on a également un thérapeute familial. On a également, c'est une spécificité d'Alençon, on héberge également au sein de notre centre un service de prévention qui est porté par la même association que celle qui gère le XAPA. Donc ça crée une proximité et ça nous permet effectivement d'avoir un continuum prévention-santé.
Donc bonjour, moi c'est Héloïse Bénard, je suis chargée de projet prévention-formation sur le plan CRAC d'Alençon. Donc sur la prévention, on va mettre en place des programmes probants, donc des programmes probants qui sont efficaces, qui sont dits efficaces, notamment sur le développement des compétences psychosociales. Donc on va travailler peut-être avec des plus jeunes pour être plutôt sur de la prévention primaire. L'idée c'est d'accompagner les jeunes qui sont en train de grandir à développer leurs compétences psychosociales pour que plus tard, ils soient en capacité de se dire « Non, je ne vais pas aller vers les consommations. Okay. » Donc on va travailler sur des programmes probants en école élémentaire, mais aussi au collège. Donc on a deux programmes, le programme Good Behavior Game en élémentaire et le programme Unplug pour le collège. On commence dès le CP. Alors compétences psychosociales, on est sur... comment interagir avec les autres, donc là on va être sur les compétences sociales, comment j'aborde une personne que je ne connais pas, gestion des émotions, connaissance des émotions, comment je gère face à une problématique de la vie quotidienne. Donc par exemple, c'est moi je suis une adulte, mais j'ai développé mes compétences psychosociales qui me permettent de répondre le plus efficacement possible aux exigences de la vie quotidienne. Donc par exemple, ma voiture elle tombe en panne demain, j'ai un rendez-vous hyper important, je sais comment gérer pour que ça se passe au mieux.
Et à quel âge peut-on être addict ou peut-on avoir les prémices d'une addiction ?
Bonjour, donc je suis Patricia, animatrice sophrologue. En fait, c'est souvent au moment de l'entrée en collège où l'effet groupe peut amener à se positionner par rapport aux autres, en fait. Alors, être addict, peut-être pas dès le collège, mais au moins ils font leur expérience. Et l'intérêt des actions de prévention, c'est aussi apprendre à se positionner, à oser dire non et à déjà commencer à faire des choix au niveau de sa santé.
Donc cette séance de ciné-débat, elle aura lieu demain, mardi 3 juin 2025, avec le documentaire, on le rappelle, « Addiction, une maladie chronique ». Pourquoi avoir choisi ce documentaire, justement ?
En fait, dans le cadre de nos missions, on a aussi la possibilité de former, sensibiliser les professionnels, les partenaires. Et depuis 2 ans, au niveau de l'ANE, on propose auprès des professionnels un ciné-débat. Et en fin 2024, on avait proposé le documentaire « Addiction, une maladie chronique ». On a été en lien avec France Télé pour avoir l'autorisation de cette diffusion à tout public. Dans ce cadre-là, on nous avait même proposé la venue du réalisateur. Et donc, on s'était dit, pourquoi pas proposer un autre temps de ciné-débat, mais là, en co-animation avec les personnes qu'on accompagne au sein du centre d'addictologie.
Et c'est vrai que le titre de ce doc, il fait assez réagir de présenter l'addiction comme une maladie chronique.
Alors, déjà le titre bouscule un peu.
C'est un peu une provocation à ce que j'allais dire.
Voilà, et il vient surtout, l'intention du réalisateur, c'est de venir battre en brèche l'idée reçue selon laquelle, avec la volonté, voilà, il suffit d'avoir un peu de volonté pour se sortir d'une addiction. Or, si c'était aussi simple, déjà, ça se saurait. Effectivement, l'idée, c'est de faire entendre au public qu'il faut dépasser la honte qui peut être la nôtre ou la leur lorsqu'ils franchissent le seuil d'un établissement comme le nôtre. Et déjà, si on accepte l'idée qu'on est dans une pathologie, c'est déjà moins honteux, on arrive plus facilement à dépasser ce sentiment.
L'idée aussi, c'était de démystifier la prise en charge en fait des personnes en difficulté avec des addictions, et aussi informer que il y a un centre qui existe, parce que je pense que on n'est pas si repéré que ça au niveau d'Alençon. Donc c'était vraiment aussi lever un tabou et dire qu'on pouvait vraiment parler de ce sujet sans tabou en fait.
Dans ce film, toutes les addictions sont présentes, représentées.
En fait, ce film, ce sont divers témoignages de personnes qui ont effectivement un parcours, chacun leur parcours, et qui témoignent effectivement. On parle de l'addiction aux jeux d'argent, l'addiction à l'alcool, des troubles alimentaires. Donc c'est un bon éventail. Alors évidemment, il n'y a pas toutes les addictions, parce que ça serait sans fin, mais ça donne un bon échantillon des addictions qu'on est amené à accompagner dans des centres comme le nôtre.
Oui, parce que le documentaire s'est filmé lors d'une cure, en fait. Okay. Et c'est vrai que quand on a présenté ce documentaire aux patients qu'on accompagne, qui eux sont eux-mêmes passés par la cure hospitalière, on va dire, avaient aussi envie de participer à ce ciné-débat pour aussi dire que la cure, c'est bien, c'est 3-4 semaines, mais c'est pas suffisant en fait. Et que la nécessité de continuer à être accompagné après une période de cure. Et donc c'est pour ça qu'ils ont souhaité s'impliquer. Et donc c'est une première pour nous aussi, parce que c'est la première fois qu'on a un projet commun professionnel et personne accompagnée. Donc c'était très riche en termes de partage. Et lors du ciné-débat, ils vont aussi présenter des activités collectives. Parce qu'au niveau du centre, on propose et de l'individuel et du collectif. Et ce temps du collectif est vraiment aussi pour les aider à recréer ce lien. Ça permet aussi de travailler un peu comme en prévention primaire sur les compétences psychosociales, aller vers les autres,
l'estime de soi,
prendre sa place. Voilà. Et donc, ils ont aussi envie de partager tout ce qui se fait ici pour donner aussi envie aux gens de se dire c'est vrai que c'est un centre de cure en ambulatoire, mais il se passe aussi beaucoup de choses, et ils ne sont pas enfermés uniquement dans tout ce qu'il y a autour des addictions, en fait. Parce que c'est autant la vie autour qui est importante, et c'est comment on reprend pied et on continue son chemin, en fait.
Nous avons parlé de la partie ciné, alors parlons maintenant de la partie débat. Quelles sont les personnes qui vont répondre aux questions des spectateurs après la séance ?
Alors, il y a deux temps de ciné-débat. Il y a un temps à 14h30 et un temps à 18h30. Sur ces temps-là, il y aura un médecin, psychologue, travailleur social, animatrice sophrologue, et la prévention sera également présente. Et les personnes accompagnées aussi pourront répondre aux... Voilà.
C'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent ?
Là, c'est une première pour nous de proposer un ciné-débat tout public. Donc okay, les autres fois, c'était plutôt avec des professionnels.
Sur les fois précédentes, on était plutôt sur comment ça fonctionne, comment on peut orienter.
L'entourage questionne sur comment on peut venir en aide, parce que... C'est vrai, la personne directement confrontée, elle est en difficulté, mais parfois on oublie que ça impacte d'une manière importante l'entourage qui est souvent en souffrance et qui peut également venir consulter hein, sur un XAPA. Et ça, c'est vraiment une autre mission qui est moins connue du grand public.
Et un parent qui a l'impression que son fils ou sa fille est addict ou commence à avoir une addiction, elle peut venir au XAPA.
Alors pour les jeunes en fait de 15 à 25 ans, 12-25 ans, il y a des consultations jeunes consommateurs. Où là, c'est deux autres collègues qui interviennent au CMS sur Courteil le mardi matin et le vendredi après-midi pour accueillir aussi des jeunes et leurs parents s'ils ont des questions ou des doutes sur, par exemple, la consommation de leurs enfants ou les inquiétudes, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'inquiétudes autour des consommations.
Pour répondre à votre question, des parents peuvent venir rencontrer. Alors, très souvent, puisqu'on a la chance d'avoir un thérapeute familial, effectivement, on va orienter ces personnes vers le thérapeute familial. Et elles peuvent venir indépendamment du fait que leur enfant ou leurs proches soient ou non accompagnés sur la structure.
C'est quoi les premiers signes qui indiquent qu'on est addict ou que l'on a les premiers symptômes d'une addiction ?
Les premiers signes, c'est la perte de contrôle. C'est en fait, c'est quand la personne, si on va sur l'alcool par exemple, c'est quand la personne se rend compte qu'elle ne peut plus s'en passer en fait. Mais ça veut, parce que quand il y a une consommation, la personne recherche consciemment ou inconsciemment un effet. Hein? Et au niveau, si on reste sur l'alcool, par exemple, la personne boit une première fois un apéritif, se sent bien après, et donc le corps va s'habituer, donc il va avoir l'effet d'accoutumance, et donc le corps va réclamer un peu plus cette consommation. Et à un moment donné, la personne va se rendre compte qu'elle va consommer un peu plus que son propre verre d'apéritif tous les soirs. Et c'est quand la personne va commencer qu'elle va commencer à se rendre compte qu'elle ne peut plus s'en passer, qu'elle va commencer à avoir des signes. Et des fois, c'est l'entourage qui perçoit en premier, parce qu'il y a aussi des comportements qui changent au niveau relationnel. Donc, ça peut être l'entourage qui peut amener la personne à consulter, en fait.
Préciser qu'on accompagne certes des personnes qui sont en situation de dépendance, d'addiction, mais on a vocation aussi à accompagner des personnes qui vont être dans une démarche de prévention, qui se questionnent sur leur rapport à une substance psychoactive, quelle qu'elle soit, et qui vont venir prendre de l'information, parce qu'on accompagne parfois des personnes qui sont en ce qu'on appelle, qui ont un comportement, un usage à risque, un usage nocif ou un usage à risque, qui peut effectivement, s'il n'est pas pris en charge, évoluer vers une situation de dépendance.
Merci à vous trois d'avoir répondu à toutes mes questions pour Radio Pulse. Et pour finir, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on peut vous retrouver et où est-ce que cette séance demain aura lieu ?
Alors le XAPA est situé au 37 cours Clémenceau sur Alençon. Et le ciné-débat a lieu sur le site de l'IFRES au 25 rue Balzac à Alençon. C'est tout près du parc des promenades. Alors notre numéro du centre, c'est le 02 33 26 89 16. Donc c'est entrée libre, gratuite. Et donc c'est mardi 3 juin à 14h30 et une seconde séance à 18h30. Donc possibilité encore de s'inscrire ou de se présenter le jour du ciné.
Tu recommences. Faut croire que tes démons t'ont pas encore assez cassé la gueule. Ah, c'est reparti pour une danse. T'as tellement répété que tu peux pas t'arrêter comme si t'étais Michael. Ah, tu vas en payer le prix. Des douleurs et des pas en arrière autant que si t'étais jamais parti. Comment dire, t'oses plus demander pardon au ciel. T'aurais foiré les 40 jours dans ta traversée du désert, t'es pas un modèle. Soit t'es trop dur avec toi-même, soit c'est trop dur d'être en paix. Corps humain comme seul véhicule de vie, c'est pas
un motel. Pourtant tu passes ta vie dans des rêves au lieu de les vivre en vrai. Tu sais plus si c'est ton esprit ou ton corps qui demande. Une chose est sûre, au moment venu c'est pas ton cœur qui commande. Les problèmes qui commencent, tu sais déjà où tu vas. Tu regardes ton addiction, tu dis ça. Mais y'a que quand je te retrouve que tout se calme en moi. J'ai pas tout ce calme en moi. Où j'étouffe ce calme en moi. Mais y'a que quand je te retrouve que tout se calme en moi. J'ai pas tout ce calme en moi. Où j'étouffe ce calme en moi. Mais y'a que quand je te retrouve. Toujours dans tes grands débats, attiré par tes plus grandes peines, par tes futures vendettas. Envers toi-même t'en fais pas, si demain tu t'en sors tu regarderas les raisons de merde que tu trouvais pour replonger dans tes vagues, dans tes torrents, dans ton confort abyssal. Vivement le silence, la légèreté, tout ce qui t'emmène au-delà. Et de là, tu verras comment faire mieux que quand tu sais que tu vois ton addiction et que tu dis ça. Mais y'a que quand je te retrouve que tout se calme en moi. J'ai pas tout ce calme en moi. Où j'étouffe ce calme en moi. Mais y'a que quand je te retrouve que tout se calme en moi. J'ai pas tout ce calme en moi. Où j'étouffe ce calme en moi. Mais y'a que quand je te retrouve.
A été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
On vient de s'écouter sur Radio Pulse le morceau Addiction de Jair et maintenant on passe au Masterclass Ferrarock.
Cette radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
Et cette semaine, nous partirons faire la fête tous les soirs avec le groupe La Flemme, puisque La Fête, c'est le nom de leur tout dernier album. Mais c'est quoi ce groupe La Flemme? Et bien à la base, La Flemme, c'est l'ouragan flashy qui vient secouer le paysage musical français, emportant tout sur son passage dans un déluge de sonorités garage pop et de textures psychédéliques. Cette fête aura un petit goût d'anis, voire même un gros goût, puisque les quatre membres de La Flemme viennent de Marseille, bébé. À la base, les quatre membres de ce groupe faisaient partie de plusieurs autres groupes. Jules, Stella, Charles et Ronnie sont respectivement associés à Technopolis, Flathead, Tense of Fool et Ave Noir et Tessina. Mais un jour, lors d'une belle soirée, ils se sont dit « Mais les gars, venez, on se réunit et on monte un groupe qui pourra tenir debout sur scène ». Et figure-toi que deux mois plus tard, c'est possible. Parce que tenir debout sur scène, c'est une chose, mais ne pas faire s'asseoir les spectateurs, c'est autre chose encore. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est que c'est mission réussie pour La Flemme. La réunion de ces quatre fantastiques artistes a permis la création d'un groupe irrésistible de facilité et de décontraction, balançant sans effort apparent des compos frénétiques d'une immédiateté à toute épreuve. Depuis le 25 avril, leur tout dernier album La Fête est disponible. C'est une régalade auditive sans précédent. Aujourd'hui, nous allons écouter le son Oiseau. Dans ce son, l'oiseau présenté ne part pas en migration dans le sud, là où il fait chaud. Il va de garage en garage, d'apéro en apéro, et lorsqu'il vole, nous avons l'impression qu'il danse. Cet oiseau a oublié sa condition d'animal pour devenir un oiseau qui ne fait que danser, et à force, il finira peut-être par s'inscrire à Danse avec les Piaf. Alors, si vous aussi, vous êtes un pigeon et vous aimez danser sur le son du groupe La Flamme, eh bien, vous allez danser
commencer avec le morceau Oiseau sur Radio Pulse.
Son nid, ses amis sont loin d'ici. Il s'en fait pour ses petits qui nourrissent.
Fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
Vous avez vu des oiseaux danser dans le ciel, c'est normal. C'était le morceau Oiseau du groupe La Flemme sur Radio Pulse. Vous êtes toujours dans l'émission C'est de la locale et on passe maintenant au tête à tête du jour avec Tatiana.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Bon, aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu mélancolique ou du moins pas hyper fun non plus.
Oh.
Alors, ce matin, j'ai eu un petit pincement au cœur. Parce que je suis tombée sur notamment 3 articles dans Le Monde. Et ça m'a un petit peu touchée. Et je me suis dit, on va en parler ce soir.
Vas-y, dis-moi.
Alors, le sujet, c'est évidemment l'avenir de la radio. La vraie, celle avec les ondes, les antennes, les postes grésillants dans la cuisine ou même dans la voiture. Malheureusement, elle est en train de disparaître. Est-ce que tu savais, toi, Simon, que en France, à partir de 2030, la FM sera peut-être complètement coupée. Voilà, terminé, basta, c'est ciao. On passe tout numérique, DAB+, appli, plateforme. Bon, voilà. Alors évidemment, on va pas faire non plus, voilà, c'est les dinosaures, hein, le monde, il faut qu'il évolue avec son temps, voilà, c'est vrai. C'est super pratique d'écouter sa radio sur son téléphone, sur une appli, on peut replay, on peut mettre ses petites playlists, écouter des podcasts, en veux-tu, en voilà. Mais bon, je pense que les gens, ils se rendent pas forcément compte de ce qu'on est en train de perdre, ou du moins l'ARCOM n'est pas en train de se rendre compte que c'est assez exceptionnel. Je sais pas ce que t'en penses, toi.
Mais si les gens écoutent plus la radio avec l'ustensile de la radio, justement de la radio avec le poste radio, peut-être qu'il faut le remplacer aussi.
Oui, mais non, pas forcément. Il n'y a pas forcément obligé d'avoir le poste radio pour écouter. Dans nos voitures, ça fonctionne très bien en FM. En fait, ce qu'ils veulent, c'est moderniser le truc et que ça... Je sais pas.
Mais après, en fait, ça va être remplacé, la FM.
Mais justement, c'est remplacé par la DAB+.
Eh bien, la DAB+, ça va permettre d'avoir plus de radio, plus d'ondes,
il me semble. Non, parce que tout est mis sur une même... c'est un peu comme une application. Ou alors, il faudrait télécharger... on va faire de la pub. Radio Player ou je sais pas. Mais non, je sais pas. En fait, c'est un peu le truc du monde des voix hertziennes, quoi. En fait, ça va être... mais même, tu vois, genre... tout va être remplacé par en mode numérique, en mode IA et tout, genre... Tu vois, genre nous, on sera même plus trop en mode animateur.
Mais non. T'es hyper pessimiste ce soir. Qu'est-ce qui t'arrive?
Pour moi, ouais, tu vois, c'est genre un peu...
Mais non,
c'est,
en fait, les postes, en fait, par exemple, dans les radios, il y aura du DAB+, mais il y aura toujours le côté FM.
Non, enfin, en fait, bah non, justement...
Si c'est remplacé par le DAB+, ce sera juste comme la FM, mais ce sera un autre moyen, mais on s'en rendra même pas compte, en fait.
Si.
Mais non, on s'en rendra même pas compte.
Si, parce que
et en plus, on peut mettre... En fait, le truc, c'est que la FM, elle est quand même saturée, tu vois, il n'y a pas beaucoup de place. Le DAB+, ça va permettre d'avoir plus de radio.
Oui, mais ça perd son authenticité. Par exemple,
je sais pas... Pourquoi ? Mais c'est vrai qu'on va même pas s'en rendre compte.
Mais si, parce que...
C'est comme passer de la TNT à, je sais pas quoi, tu vois, à CanalSat.
Mais si, parce que regarde, le DAB+, fait que tout est linéaire. En fait, c'est propre, il n'y a pas de fond de son, il n'y a pas de grésillement, en fait, t'as l'impression que t'écoutes un... Je sais pas, moi, le truc, il est passé dans un chat GPT ou je sais pas quoi. Ils ont enlevé tout ce qu'il y avait derrière. Et du coup, ça perd du truc réel et réaliste de la radio. Où y a un grésillement, où ça coupe, où tu te trompes, ou un truc... En fait,
mais après, le diable va pas empêcher qu'on se trompe. Si quelqu'un dit n'importe quoi à l'antenne, il va le dire à l'antenne, que ce soit en FM ou en DAB+.
Franchement, je suis pas sûre que les animateurs seront pleinement... je pense que ça sera remplacé par des IA. Mais mec, il y a tellement d'IA maintenant que franchement, ça m'étonnerait pas du tout. Hein.
Non, attends, oh, Tatiana.
Si. Mais donc du coup, en fait, c'est juste que... en fait, dans le premier article, on disait que... en fait, à partir du 6 juin, donc là, vendredi, le groupe Canal va changer de... En fait, passe de la voix hertzienne à... ça fait déjà 40 ans qu'il était dessus. Et en fait, ils vont quitter les fréquences de la télévision numérique terrestre, donc la TNT, et vont venir, du coup, en fait, sur le numérique, quoi.
Ouais.
En fait, ils partent de la TNT, quoi.
Bah oui, mais ils n'ont pas le choix.
Mais ils n'ont pas le choix, arrête.
Bah non, mais c'est normal.
Non.
Parce que du coup, c'est France 4 qui prend la place de Canal.
Oui, mais en fait, ils peuvent forcément... Enfin, je sais pas, ils auraient pu garder la chaîne.
Comment ça, je comprends pas.
Mais genre, juste, je comprends pas le truc de partir, en fait, et de quitter le truc. Enfin, je comprends pas. Là, ils partent...
Mais je crois que c'est pas Canal qui a décidé de quitter la TNT, hein.
Bah, après je sais pas, mais moi sur l'article ça disait le groupe Canal+ quitte.
Ouais, parce que du coup la 4 sera remplacée par France 4, tu sais, il y a tout un changement dans la grille de programme de la TNT.
Oui, mais le changement ne veut pas dire en supprimer une.
Bah ouais, mais après le truc c'est qu'en fait Canal c'est aussi une boîte, c'est une boîte où les gens, quand t'as un décodeur Canal en fait t'as plein de chaînes. et t'as pas vraiment la TNT. Par exemple, c'est la 11, c'est Canal Plus Sport, la 12, c'est Canal Plus Cinéma, et t'as pas la TNT comme on peut la voir avec la 12, Energy 12 et tout. D'ailleurs, Energy 12 ne sera plus présent, C8 non plus. Donc, c'est vrai que Canal Plus va plus diffuser ses programmes sur la TNT. Mais en même temps, quand t'avais Canal, tu regardais Canal sur la 4, c'est vrai, mais tu regardais aussi beaucoup Canal à la demande, il y avait plein de chaînes Canal. Donc en vrai, ça change quand même un peu quelque chose en soi quand ils pensent, mais au final, ceux qui utilisaient Canal, je pense pas que ça change grand chose pour eux.
Je sais pas, franchement.
Tu vois, même Canal, en fait, c'était. Tu vois, mes parents, ils ont un décodeur Canal. Quand tu mettais Canal, c'était la 4, c'était aussi la 9, c'était aussi plein d'autres chaînes. En fait, ça a changé pas mal. C'était un peu le bordel, tu vois. Donc, et quand tu regardes la TNT, bah, t'as pas vraiment Canal. Donc, moi, franchement, je sais pas trop ce que ça change. Mais je sais pas si ça change vraiment beaucoup.
Bah,
et puis au moins France 4, il y a un côté France 4, c'est pas la 14, tu vois. France 4 sera la 4, ce sera plus logique.
En vrai, je t'invite et je vous invite à aller lire les articles, mais en gros, là, de ce que j'ai pu lire, il disait « Cela illustre le bouleversement à l'œuvre dans l'audiovisuel, sonnant le glas d'un siècle de TSF, donc la télégraphie sans fil, qui a fait naître la radio et la télévision. »
Ok.
Donc voilà, mais l'article en dit beaucoup plus. Le deuxième, c'était un entretien justement avec un professeur qui s'appelait Wolfgang Ernst, qui explique que l'avènement du terminal numérique a aboli la distinction technique traditionnelle entre les différents médias, donc imprimé pour le texte, radio pour la réception auditive, la télévision pour l'image animée et la sortie du son, quoi. Mais bon, voilà, quoi, après... Et le troisième article, du coup, c'était à l'angle un peu plus général de l'avenir incertain de la radio avec l'AFM et pour le DAB+. Et qui disait qu'en vrai, l'ARCOM allait envisager que l'AFM disparaissait du coup à partir de 2033, quoi. Mais ça disait que... je sais même plus ce que...
Tu as peur que ton métier disparaisse, Tatiana, mais je te rassure.
Bah franchement, moi je suis pas sûre que le DAB+, soit une bonne chose, hein.
Bah, j'en sais rien non plus.
Au niveau mais des fréquences.
Seul l'avenir nous le dire. Mais c'est que vraiment, le DAB+, c'est juste un changement. Mais genre, c'est pas. Ça change pas grand chose au final. On verra. De toute façon, on verra. On va pas commencer à pronostiquer l'avenir.
Oui, bon, après 2033, c'est dans longtemps. Mais bon.
C'est sûr.
En vrai, je pense pas que.
On aura peut-être pris une météorite d'ici là.
J'espère pas quand même.
C'est toi qui es pessimiste, ma grande.
Non, j'essaie de garder espoir quand même. Mais je veux juste que les animateurs soient toujours là, qu'on ne soit pas remplacés par des IA ou que le numérique prenne pas trop de place dans nos vies non plus, parce que tout est numérisé aujourd'hui et bon, bah, ça devient un peu usant, quoi. Bon,
n'aie pas peur de l'avenir.
Ouais, bon, l'avenir il est bof, hein. Mais bon, on est là pour vous faire l'émission, et tant qu'on est là, c'est le principal. Bon bah voilà, écoute, fin de chronique, c'est parti.
Petit coup de mou.
Oui.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse. Cette radio fait partie de la Ferraroc, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.
Bon, essayons de me redonner le sourire avec la présentation du deuxième album Ferraroc. Et c'est certain qu'il va me donner le sourire, et oui, parce qu'aujourd'hui, on s'arrête quelques instants sur cet album qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un petit peu. Il s'appelle Avec Toi et c'est signé Pierre Gisèle. Voilà, un petit nom qui intrigue, on ne sait pas tout de suite à quoi s'attendre. C'est peut-être ça qui rend cette découverte aussi intéressante. Avec Toi, c'est un album qui parle de liens, de présence, de moments qu'on partage ou qu'on rate peut-être. C'est assez intime sans jamais être étouffant. On sent que tout est pensé avec sincérité, sans chercher l'effet pour cet effet, hein. Les textes touchent juste, les productions sont simples mais efficace et surtout, ça sonne vrai, c'est comme la FM, quoi. Et musicalement, c'est un mélange de pop française moderne, hein, d'électro discrète, avec parfois un petit côté lofi qui donne un petit peu de chaleur. Et puis, Pierre Gisèle, elle trace sa route tranquillement, sans copier personne, et ça, c'est fabuleux. Ce qui frappe, c'est surtout l'équilibre, hein. Il y a de l'émotion, de l'élégance, mais c'est sans chichi. C'est un album qui fait du bien, qui parle au quotidien sans en rajouter, et franchement, c'est cool. Allez, je vous laisse avec un des morceaux forts de l'album. Voici La meilleure soirée de ta vie de Pierre Gisèle, extrait de son nouvel album avec toi sur Radio Pulse.
Radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
C'était le morceau La meilleure soirée de ta vie de l'album Avec toi de Pierre Gisèle sur Radio Pulse. Vous êtes toujours dans l'émission C'est de la locale. Et puis, bah, écoute, Simon... De quoi on parle ?
On parle tennis.
On parle tennis, c'est parti.
Roland Garros, deux hommes qui frappent de tous leurs bras.
Je change, pouf, coup droit. Mais là, je fais un revers. Et je me positionne, tic, bing, coup droit. C'est ça le tennis. Mais c'est ça le tennis.
Bah moi aussi, j'aime le tennis, mais j'aime Roland-Garros. Mais j'aime surtout quand des Français gagnent à Roland-Garros. Et quand on a vu que Arthur Fils, le meilleur Français, avait dit qu'il passerait pas son troisième tour, enfin qu'il n'irait pas jouer, il a abandonné avant même de jouer. Chez les Françaises, on s'attendait pas à ce que ça gagne.
Mais ouais, aujourd'hui, carrément.
Incroyable aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est complètement fou.
Ouais.
La victoire de Loïse Boisson, une Française de 22 ans, 361e mondiale, qui a vaincu aujourd'hui l'Américaine Jessica Pegula. Goula, troisième mondial, et ça c'est quand même assez exceptionnel.
Ouais,
si on calcule bien, il y a quand même 358 places d'écart entre les deux, et pourtant sur le court, eh ben, l'écart il s'est pas vu, et oui. Bon, quand même au début on avait un petit peu peur, parce que déjà Louise Boisson, elle a fait un troisième tour assez épicé contre une autre Française, Jacquemot, où elle a gagné 7-5 dans le dernier set, dans le troisième set. À bout de nombreuses heures de jeu, on s'est dit, est-ce qu'elle va réussir à tenir face à la troisième mondiale et surtout face au central, puisqu'en fait, c'était la première fois que Louise Boisson ait joué sur le central. Alors, lors du premier set, on s'est dit, aïe, Louise, ça va être dur. Ouais. Elle n'arrivait pas à avoir une bonne longueur de balle. Elle n'arrivait pas à passer devant. Elle s'est fait briquer d'entrée. 6-3, premier set pour Pegula. Et là, certains auraient pu penser, même moi, je l'ai un peu pensé. Je me suis dit, ça va être dur, etc. Mais au final, elle n'a rien lâché. Louise a rendu folle la troisième mondiale avec des passings complètement insensés, des amortis, puis des lobes ultra bien sentis. Et elle s'adjuge alors le deuxième set, 6-3. Et là, forcément, le central est fou. Louise Boisson, elle est française. Donc, dans le central, tout le monde est français. Donc, tout le monde crie, tout le monde... Enfin, vraiment, c'est une ambiance complètement exceptionnelle. Et c'est des matchs comme ça à Roland-Garros qu'on aime. Et Madame Boisson n'a du coup... plus peur du central, elle le dompte, mais le combat n'est pas fini. Il s'accentue même lors du troisième et dernier set. Ça devient même irrespirable au moment où Louise Boisson doit servir pour le match. Elle a breaké Pegula, elle a un jeu d'avance, 5-4. Elle sert pour gagner 6-4, donc pour gagner le match et passer en quart de finale. Là, c'est complètement... Enfin, le jeu, qui... un jeu d'habitude, ça dure quoi? Ça dure 2-3 minutes. Là, il dure plus d'une dizaine de minutes. C'est franchement... Je te dis, quand j'étais irrespirable, c'était irrespirable. Je ne respirais plus dans la studio de Radio Pulse, je ne respirais plus. Et elle finit par gagner 6-4.
C'est exceptionnel.
C'est incroyable.
Ouais.
C'est fou parce que, comme on l'a dit, elle revient de très loin. Mm. Parce qu'elle avait perdu au premier... Enfin, elle a perdu, mais face au troisième tour, elle a perdu 6-0 le deuxième set. On s'est dit, elle est un peu blessée, qu'est-ce qui se passe? Elle finit par s'imposer. L'année dernière, elle était blessée, extrêmement blessée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'est fait une entorse des ligaments croisés. Et qu'elle est revenue sur les cours seulement 2 mois avant Roland-Garros. Elle n'a pas joué au tennis pendant 10 mois.
Elle a charbonné, quoi.
Et là, mais oui, mais elle a charbonné seulement pendant 2 mois. Et là, elle est en quart de finale de Roland-Garros. C'est complètement exceptionnel. Donc, un grand bravo à elle. Mais derrière cette victoire, donc ce quart de finale, il y a des chiffres qui accentuent encore plus, en fait, cette victoire. Déjà, elle est 361e. Elle va gagner 241 places.
Wow.
Avec ce classement-là. Donc, t'imagines le bon au classement, comment il est fou. Aussi, 361, c'est en fait le classement le plus bas depuis 40 ans. C'est le classement d'un joueur qui atteint le quart de finale de Roland-Garros le plus bas depuis 40 ans. Donc, c'est quand même assez exceptionnel. Et surtout, Louise Boisson est seulement la deuxième wild card à se hisser en quart de finale de Roland-Garros. La première, c'était Mary Pierce en 2002. Une wild card, en gros, c'est une invitation. C'est ce que le tournoi te donne pour venir. Mais souvent, des wild cards, c'est des jeunes joueurs ou alors des joueurs qui sont pas très bien classés.
Ouais.
C'est pour leur donner l'occasion de jouer à Roland-Garros. Et là, c'est la deuxième fois qu'elle atteint qu'une wild card atteint les quarts de finale de Roland-Garros. C'est quand même assez exceptionnel. Bon, tout le monde voyait le tennis féminin malade en quête d'un rebond. Le rebond, il est là. Il est rapide et il est en quart de finale.
Enfin.
Ce rebond, il s'appelle Louise Boisson. Et après avoir battu la troisième joueuse mondiale, elle affrontera Mira Andreeva, autre prodige du tennis. C'est une Russe de 18 ans à peine et déjà sixième mondiale. Le match va être fou.
Ouais.
Le rendez-vous est pris.
De ouf, carrément. Bon, écoute, merci à toi.
Roland Garros, deux hommes qui frappent de tous leurs bras.
Je change, pouf, coup droit. Mais là, je fais un revers. Et je me positionne, tic, bing, coup droit, c'est ça le tennis, mais c'est ça le tennis.
Moi, j'aime le tennis, moi, j'aime le tennis.
Bon, on va du coup continuer dans le sport avec l'incollable local du jour.
Oui.
Autre exploit français, on a parlé du tennis et maintenant on va parler du football.
Oh.
Tu n'as pas regardé la finale de Ligue des Champions samedi soir contre l'Inter de Milan?
Figure-toi que j'ai dormi tôt parce que le lendemain, j'avais bénévole.
T'avais autre chose à faire, d'accord. Ouais. Écoute, moi j'ai regardé et du coup, je t'ai prévu quelques questions. Alors attention, ça va pas être sur le match que tu n'as pas vu, mais ça va être sur des petits événements autour pour créer un jeu ludique tout en apprenant plus. Alors, évidemment, ils ont gagné la Ligue des Champions samedi soir. Je ne pouvais pas, en tant que fan de foot, ne pas vous parler de ça. 5-0 contre l'Inter de Milan. Les Milanais ont pleuré toutes leurs larmes pendant le match depuis la 20e minute. Moi, j'ai pleuré de joie, évidemment. questions autour de cette finale, des célébrations des joueurs autour de l'événement. Première question, lors de la finale ce samedi, quel joueur était le plus normand sur le terrain? Eh ben oui, il y a eu des joueurs normands. Est-ce que c'était Dembélé? Est-ce que c'était Désiré Doué? Est-ce que c'était Benjamin Pavard ou est-ce que c'était Hervé Matou, le commentateur?
Je dirais Pavard.
Benjamin Pavard, eh bien non. Tu as raté, tu as une autre chance, vas-y, je te laisse.
Tu m'as dit qui après?
Dembélé ou Désiré Doué?
Désiré Doué.
Bah t'as tout faux, c'est pas grave. C'est Ousmane Dembélé, le double passeur décisif du soir, qui est né à Vernon dans l'Eure. Mmh. Il a d'ailleurs joué jusqu'à ses 13 ans dans le club de Évreux. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un qui est né en Normandie et qui a joué en Normandie. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il est toujours en contact avec Évreux. Et il y a à peine quelques mois, il avait invité les U9 de son premier club, donc à Évreux, à venir gratuitement au Parc des Princes pour le voir jouer, ainsi que le Paris Saint-Germain. Voilà. Il n'oublie pas ses origines, il n'oublie pas son petit club d'enfance.
C'est sympa.
Et ça, clairement, c'est régal. C'est donc quelqu'un qui fait des beaux gestes sur le terrain et en dehors. On reste en Normandie. Anecdote marrant. À Vire, l'hippodrome avait des airs de Parc des Princes. Mais alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Vire en Normandie avait mis une fan zone sur l'hippodrome pour voir le match? Est-ce que c'est la ville avec la concentration la plus importante de supporters du PSG? Est-ce que plus de 300 ados étaient réunis pour voir le match après un tournoi de foot? Ou alors, tout simplement parce qu'ils ont vraiment déplacé le stade de Parc des Princes là-bas?
Moi, je pense qu'ils ont déplacé le Parc des Princes.
Mais enfin.
Non, je pense qu'il y a eu 200-300 ados là.
Ouais, effectivement, c'est ça. Alors pourquoi ça avait des airs de Parc des Princes? Eh bien parce qu'en fait, il y avait eu un tournoi, mais un énorme tournoi. Plus de 300 adolescents étaient venus à Vire pour participer à un tournoi U14, la Normandie's National Cup. Et donc, à la fin forcément de ce tournoi, on leur a dit, venez, on va regarder le match. Surtout qu'en fait, il y avait même les U14 du PSG qui étaient présents. Et donc, ça a vraiment fait un... Ça devait être trop bien, t'imagines, tous les petits jeunes de 14 ans qui regardaient tous la finale de Ligue des Champions.
Plus les parents et tout.
À Vire, en Normandie. Ouais, franchement, ça devait être super cool. C'est pour ça qu'effectivement, l'hippodrome avait des airs de Parc des Princes, puisqu'il y avait beaucoup de monde pour supporter le PSG. Qu'a titré le journal La Provence, le quotidien régional fondé à Marseille en 1997, après la victoire du PSG? Effectivement, La Provence, c'est vraiment... ils supportent l'OM, tout simplement. Forcément, c'est régional. Ils ont forcément titré
bien sûr.
Là-dessus. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Est-ce que le titre, c'était « Quand même, bravo » Est-ce que c'était « Pour le foot français » Est-ce que c'était « À jamais les deuxièmes » Ou est-ce que c'était « Sans tricher en plus »
je dirais « Pour le foot français ».
Non, c'est pas ça.
Ou alors « Le truc deuxième ». C'est comme c'est des...
Genre... Quand même bravo.
Non, le truc à jamais deuxième.
Ouais, alors pourquoi à jamais les deuxièmes? Est-ce que t'as la référence?
Mais parce que c'est eux les premiers à avoir l'étoile.
Oui, c'est ça, c'est qu'en fait Marseille, les supporters de Marseille, ils disent toujours à jamais les premiers, c'est le premier club français à avoir gagné une Ligue des Champions. Qu'est-ce que fait la Provence pour rendre hommage à la fois à la victoire du Paris Saint-Germain et sans dire bravo, etc. À jamais les deuxièmes, je trouve ça assez exceptionnel puisque tu vois, il y a ce côté un peu à jamais les deuxièmes, genre ils l'ont gagné pour toujours, c'est cool.
Ouais, mais c'est
en même temps, deuxième derrière l'OM. Je trouve que c'est hyper mimi, je trouve que c'est hyper bien vu, mais je pense qu'ils l'avaient préparé depuis longtemps cette phrase-là.
Sûr.
Ils se sont dit au cas où le PSG gagne.
C'est comme les t-shirts, ils sont sortis le lendemain, genre. T'imagines le nombre de t-shirts qu'ils ont confectionnés avec l'étoile s'ils n'avaient pas gagné.
Ah non,
voilà,
c'est fou.
La surconsommation, et c'est dingue de dépenser et de... Moi, ça me rend... Mais bon,
c'est pour que ça aille, vite.
Ouais, mais bon, allez.
Paris a joué la finale dans le stade de Munich. Tu sais où c'est Munich? C'est en Allemagne.
Merci Simon.
J'avais peur que tu me répondes Équateur, j'ai pris les devants.
Non, c'est en Égypte.
Donc, ils ont joué la finale dans le stade de Munich face à l'Inter de Milan. J'ai une petite question à toi. Contre qui et où a joué l'OM en 1993, justement lors de la première victoire française en Ligue des Champions? Est-ce que c'était à Berlin contre l'autre Milan, l'AC Milan? Est-ce que c'était à Madrid déjà contre l'Inter de Milan? Ou alors est-ce que c'était à Munich contre un autre Milan? Ou alors est-ce que c'était contre Valenciennes dans les tribunaux?
C'est dans les tribunaux? Non, je pense que c'était à Berlin.
Non.
Ou alors c'était à Munich?
Effectivement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que Marseille, il gagne la Ligue des Champions contre l'AC Milan dans le stade de Munich, et le Paris Saint-Germain gagne contre l'Inter de Milan à Munich.
Mais
c'est fou le destin quand tu y penses.
Moi, je me demande, est-ce que le PSG aurait gagné s'ils avaient joué à domicile?
Il n'y a pas... peut-être. C'est quoi cette question?
Mais parce que tu sais, des fois, on se dit, non, mais on est à domicile, on connaît, c'est mieux, on a plus de supporters, patati patata.
Et tu te relâches, c'est ça que tu veux dire.
Ouais, et finalement, bah, par cette confiance, et bah, ils réussissent pas.
Après, tu sais, souvent les matchs de, comme ça, les finales, en fait, c'est dans une ville un peu neutre. Ou alors, en fait, ouais. On savait. Par exemple, tu commences la Ligue des Champions, la phase au tout début d'année, et tu sais déjà que ça va se finir dans un stade précis. Et là, on savait que c'était à Munich.
Ouais.
Donc, à part le club de Munich, le Bayern de Munich, tous les clubs savaient qu'ils ne joueraient pas à domicile le jour de la finale.
Mm-hmm.
Mais. Le truc, c'est qu'il y a énormément de supporters de Paris qui sont venus supporter Paris Saint-Germain à Munich. Donc au final, ils faisaient tellement de bruit que tu as l'impression d'être à domicile. Et franchement, une finale de Ligue des Champions, les joueurs, ils sont poussés quoi qu'il arrive. Et en tout cas, grosse pensée pour les supporters de l'Inter
mais
de Milan.
Grosse pensée pour les supporters du PSG qui ont payé une somme astronomique. Ils vont manger des pommes de terre jusqu'à la fin du mois de
ouais,
décembre.
Ça, c'est sûr. Les prix, ils étaient assez mirobolants. Et d'ailleurs, ils ont un peu critiqué les Allemands, si tu veux tout savoir, parce que l'Allemagne, ça reste un championnat où les prix des places ne sont pas très chers.
Ouais.
Sauf que c'est pas la fédération allemande qui met le tarif des places pour les finales de Ligue des Champions, c'est l'UEFA. Et l'UEFA a mis des places extrêmement chères pour la finale, forcément, pour faire des sous. Et donc, les supporters allemands, ils étaient un peu en mode, c'est abusé, nous, d'habitude, c'est pas si cher que ça. Et là, c'est vraiment extrêmement cher.
Bah oui.
Je referme la parenthèse, je referme l'incollable local.
Mais
tu en auras
super,
une prochaine demain.
Et oui, on a hâte. Et bien, nous, on se dit
Demain,
justement, à demain.
18h-19h pour l'émission C'est de la locale avec Tatiana et moi-même. On va parler de plein d'autres choses,
ouais.
Mais on va pas vous spoiler.
Ouais. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée à tous.